La première fois, c'est cette bonne vieille question qu'on n'ose jamais poser parce qu'elle est insolente, intrusive, souvent indécente. La première fois, c'est une façon de parler de choses très très intimes, dit comme ça, une façon de briser tous les secrets aussi, une façon de sacraliser le passé, comme s'il fallait en faire un moment clé à tout prix. Pourtant, vous savez ce qu'on dit, la première fois, c'est toujours un peu décevant. Beaucoup vous diront que ça fait mal, que c'est très maladroit, voire très malaisant. Alors qu'en posant la question, franchement, on n'en attendait pas tant. On en parle toujours avec pudeur des premières fois, comme un secret bien gardé, alors que franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Le drame, c'est qu'on en a fait tout un plat. On était plein d'attentes et de fantasmes qui se sont écrasés sur l'autel de la réalité. On était dans le plus beau des clichés. Et je me demande justement si toute la beauté des premières fois, c'est pas quand elles sont ratées. On peut les regretter, on peut s'en moquer, on peut y repenser aussi, en mesurant à quel point on s'est planté. Vous vous souvenez de la première phrase de ce si beau roman d'Aragon, la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. À ce jeu-là, on n'est jamais contre une première fois.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui n'est jamais contre une première fois.
Bonjour.
C'est d'ailleurs la première fois qu'elle vient dans cette émission et sans doute pas la dernière. Son visage et sa voix ont traversé 60 ans de cinéma, de théâtre. Figurez-vous que dans un mois, elle sortira son premier album de chansons avec la complicité d'Alex Baupin et de quelques grands noms de la chanson française, de Julien Clerc à Charles Aznavour, en passant par la grande Sophie ou Dominica. Bonjour Françoise Favian.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Votre plus belle première fois, tiens, vous allez me la révéler.
Vraiment, vraiment, vous voulez que je vous raconte ça?
Tout.
Mon premier baiser, par exemple.
Par exemple.
Mon premier baiser, j'avais 8 ans.
Oh.
Oui.
C'est très jeune, Françoise.
C'était très jeune. J'étais assise sur, une cave, dans la maison de mes parents. Sur, vous savez, une panière en osier, là, où on met des vêtements. Et puis, mon oncle est arrivé. C'était très, très pur. C'était un oncle qui avait 8 ans de plus que moi. C'était le dernier enfant de ma grand-mère qui a eu 11 enfants. Donc, j'avais mon oncle, Georges, qui avait 8 ans seulement de plus que moi. Donc, j'avais 8 ans. Il en avait 16.
Ouais, c'est un
petit peu particulier. Il était beau. C'était mon premier amour. Il était beau. Mais, ce jour-là, j'étais là, on était en train de bavarder dans cette cave, comme ça, assis. Et là, il a pris mon visage et il m'a donné un baiser sur la bouche, très pur, très tendre. Voilà, c'était... Et il m'a souri et il est parti. Et je me suis mise à trembler. Et je me souviendrai toujours de ce premier baiser dans cette cave, sur cette malle d'osier.
C'est une grande première fois.
Ouais.
Votre premier souvenir de spectatrice de cinéma, c'est quoi?
Oh, c'était, oui, j'étais petite aussi et je vivais à la campagne et c'était un film avec Dana Durbin et le petit, là, le petit qui a été marié avec Ava Gardner, on se demande comment, Mickey Rooney. Et c'était un film musical parce que c'était une jeune fille très, très, elles étaient toutes en blanc, comme ça, comme des colombes, et elles faisaient de la musique, elles faisaient du vélo, et elles chantaient, ta la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ouais, c'était la musique de ce film, je me souviens absolument pas du titre.
La première fois que vous avez incarné un personnage, au cinéma ou au théâtre?
La première fois que j'ai incarné, c'était au théâtre.
Et c'était qui?
C'était le pirate de Raymond Castan, mis en scène par allez, non, on va être piégé. Hein.
Ne me dites pas que vous jouiez le pirate.
Non, non, je jouais pas le pirate. Il y avait vraiment une c'était Jean Mière, voilà. C'était Jean Mière qui était le pape de la Comédie-Française, avec lequel j'ai joué 7 pièces. Et c'était ma première pièce. C'était une pièce de Raymond Castan. J'attendais des amis qui voulaient faire du conservatoire, j'étais au conservatoire, hein. C'est pour ça que j'ai changé de nom. Et qui voulaient faire un petit peu de sous en faisant de la figuration. Puis là, il y a un petit monsieur qui vient, qui dit, mademoiselle, j'étais au café en face. Et qui me dit, mademoiselle, oh, je dis, ah, ouais, ça va, hein, ça va. Non, là, je me suis toujours fait respecter, on m'a jamais touché là où il fallait pas. Jamais. Jamais. Il y en a comme moi, hein. Je me demande d'ailleurs pourquoi. Comment ça se fait? Enfin bon, bref. Et alors il me dit, mademoiselle, vous êtes très intéressante. Je dis, ah non, hein, non, laissez-moi. J'attends des amis, laissez-moi. Mais non, 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 c'est pas une mauvaise. Je voudrais savoir si vous voulez faire du théâtre. Je dis, qu'à cela ne tienne, je suis élève au conservatoire. Il me dit, écoutez, il y a Jean Meyer qui est en face dans le théâtre de la Madeleine. Est-ce que vous voulez aller le voir? Parce qu'on cherche quelqu'un comme vous, un peu méditerranéenne, un peu sauvage. J'avais les cheveux qui étaient jusque dans les reins. Et puis voilà, j'étais au soleil. je devais être convaincante parce qu'il m'a fait rentrer. J'ai vu Jean-Mierre qui me fait « Ah mais oui, vous correspondez exactement à ce que je cherche. Vous pourriez prendre l'accent marseillais ?» Oh, ben, j'ai dit « Écoutez, ça, une tienne, je vais essayer. Je veux bien pour vous, je veux bien. » Et c'est drôle parce que c'est à partir de cette rencontre que j'ai commencé ma carrière. Parce que comme c'était Raymond Castan de Paris Match, tous les gens de Paris Match sont venus me voir. Et j'ai eu le culot. J'aurais jamais ce culot là maintenant. Je me suis dit, ma mère m'a dit, mais pourquoi tu fais du théâtre? Mais il faut être connu pour faire du théâtre. Tu vas perdre ton temps. Garde tes relations avec le conservatoire. Fais tes études au conservatoire. C'est idiot. Et puis, je me suis dit, oui, c'est vrai. J'ai demandé un rendez-vous à Pierre Lazareff. Non, mais il faut être culotté quand j'oserais jamais faire ça. Je vous raconte, c'est pas trop long.
Ah, j'adore, moi. Bon.
Alors. J'appelle François et je dis à la secrétaire, je voudrais vous voir, monsieur Lazareff. Mais qui êtes-vous, mademoiselle? Je dis, oh, bah, de toute façon, mon nom ne vous dira rien. Je suis pas du tout connue. Je voudrais avoir un rendez-vous. Elle me dit, mais on voit pas monsieur Lazareff comme ça. Je dis, bah, écoutez, je sais pas, il faut qu'on parle de moi. Je commence à faire du théâtre. Et elle me rappelle. Et elle me dit, monsieur Lazareff consent à vous recevoir le jeudi après-midi à 5h. J'y vais. Je vois ce petit bonhomme avec les bretelles, comme ça, qui me dit « Alors, mademoiselle Cortès, est-ce que je m'appelle Michel Cortès, vraiment ?»« Mademoiselle Cortès, qu'est-ce que vous cherchez exactement et qu'est-ce que vous voulez, pourquoi voulez-vous me voir ?»
Question capitale.
Voilà. Alors, je dis « Écoutez, monsieur, je suis élève au conservatoire, personne ne me connaît, je vais faire du théâtre. Ma mère m'a dit que pour faire du théâtre, il fallait être connu. Alors, je me suis dit, ben, pour être connu, je vais m'adresser au plus grand, c'est-à-dire au directeur de François. Quel culot. Et lui, il adorait ça.
Ça a marché.
Il adorait les gens qui risquaient des choses.
Vous pensez que votre carrière, elle a marché au culot, somme toute?
Oui, la chance aussi beaucoup. La chance. Mais la chance, les chances, je les ai toujours eues et je les ai toujours attrapées au vol. J'ai eu beaucoup de chance. Alors, je vous raconte mes chances.
Oui.
Alors, donc, je joue cette pièce. Toutes les gens de Paris Match viennent voir la pièce, puisque c'était Raymond Castan qui l'a joué, qui était rédacteur en chef de Paris Match. Il y en avait plusieurs. Et là, Vadim vient me voir, donc, qui était à Paris Match, vient me voir au théâtre. Il commençait le premier scénario de Brigitte Bardot, qui s'appelait Cette sacrée gamine. Le premier film de Michel Boiron, qui était auparavant l'assistant de René Clair. Et il dit à Michel Boiron, il y a une fille, là, qui est intéressante, qui joue au théâtre. Est-ce que tu voudrais pas la prendre? Et j'ai joué, donc, comment ça s'appelait déjà? Oui, Cette sacrée gamine, avec Bardot. Le premier film de Boiron. Le premier scénario de Vadim pour Bardot. Et là-dessus, Becker m'a vu dans le film. Il m'a trouvé très bien. Alors que j'avais 19 ans, mais je jouais un docteur psychiatre de 25 ans. Vous imaginez comme c'était crédible. J'avais encore la voix très jeune, comme ça. C'était complètement ridicule. Et il m'a trouvé très très bien, et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Jacques Becker, parce qu'il voulait m'engager pour un film qu'il faisait en Bavière, mais j'étais trop jeune pour le faire, donc voilà.
Mais la musique, pendant toutes ces années, ne vous a jamais quitté, Françoise Fabian?
Écoutez, j'ai fait quand même 25 ans de piano, j'ai fait le conservatoire d'Alger, puisque je suis née à Alger, et puis quand je suis arrivée à Paris, j'avais pas d'argent, évidemment mes parents m'envoyaient ce qu'ils pouvaient, j'habitais dans les chambres de bonne, dans des vieux hôtels, des trucs comme ça, j'avais pas les moyens de louer une salle pour faire du piano. C'était cher de louer une salle pour faire du piano. J'avais pas de piano à ma disposition. Donc j'ai un petit peu laissé tomber le piano.
Vous en jouez plus du tout aujourd'hui?
J'en ai joué après, quand j'ai pu avoir un piano chez moi, à la campagne et tout ça. Et j'ai eu le malheur de me casser le poignet en 4 morceaux. J'ai eu 4 fractures du protocole, là où on m'a mis des broches. Et je peux plus jouer, ma main droite ne peut plus jouer du piano.
Il y a un lien pourtant, pour vous, entre la musique?
Ah, toujours.
Et le jeu?
Toujours. Oui, j'ai toujours aimé le théâtre, j'ai toujours aimé l'opéra, j'ai toujours aimé la musique, et j'ai toujours aimé le jazz, et j'ai toujours aimé les chansons.
C'est le même travail?
Ah, c'est le même goût en tout cas.
Il faut être studieuse.
Pour moi, c'est la vie. Pour moi, c'est la vie. La vie ne peut être conçue que à travers les arts. Vous imaginez un petit peu une vie sans les arts? Quel ennui ce serait!
Épouvantable, n'en parlez pas. C'est pour ça qu'on fait cette émission.
Oui. Ouais.
Vous savez, il y en a une qui aime énormément les arts dans cette émission. Et de fait, elle s'appelle la culture. Et son actualité est bonnet d'âne, cancre et haut les mains peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 20 avril? Tout, vous saurez tout sur les rajouts. Comme l'avait promis Thierry Frémaux, 10 films viennent d'être ajoutés à la sélection officielle du Festival de Cannes. 3 œuvres rejoignent la compétition, notamment le très excitant Couteau dans le cœur du français Yann Gonzalez. Côté hors compète, Lars von Trier revient sur la croisette après 7 ans de mise au banc. Et Terry Gilliam montrera enfin son film maudit, The Man Who Killed Don Quixote, commencé en 2000. You go, Terry.
C'est ça qui est bien dans le fait d'écrire aussi. Vous avez votre vie, qu'est-ce qu'elle aime? Vous avez une autre vie, et vos petits personnages que vous faites vivre. Enfin, moi j'adore, quoi, en fait.
Welbeck is back, c'est ce qu'affirme le magazine Technicart qui vient d'annoncer que le prochain roman de notre Michel National est fin prêt. L'ouvrage qui n'a pas encore de titre serait attendu pour janvier 2019 chez Flammarion. Côté thème, on chuchote que la 7e fiction du concours 2010 pourrait mêler religion, campagne, amour et Russie. Merci qui? Merci Mimi. Crédac à Bloc, le beau centre d'art contemporain d'Ivry, le Crédac inaugure aujourd'hui l'expo L'Évasion du Grep, artiste protéiforme qui nous propose une plongée dépaysante dans son univers délirant et bucolique inspiré des œuvres de Poe, Lewis Carroll ou Georges Méliès, rêve du papillon, jardin immortel, plante fluorescente. Ce week-end, on craque pour le Crédac. Et le disquaire Day creuse son sillon. Demain, la fête des disquaires indépendants célèbre sa 8e édition dans toute la France. Sous le soleil, l'événement met à l'honneur le vinyle et ses collectionneurs, mais aussi la musique et la fête de rue. Pour l'occasion, le Mackie Music Festival investit la place Saint-Marthe à Paris. L'Uppercut Jazz Club de Marseille va faire tonner la Deep House. Et le Bam Balam de Bordeaux invite Richard Pignas, pionnier de l'électro-industriel et ancien élève de Deleuze. Souriez, c'est le disquaire Day. Françoise Fabian, invitée de Boomerang ce matin, pour son premier album qui sort donc dans un mois. En attendant, c'est le moment d'un point Françoise, quand même, on en a besoin, on en a envie, parce qu'on est vendredi. Qu'est-ce qui attire votre attention dans cette actualité de la culture? Est-ce que vous êtes plutôt Welbeck? Je vous ai vu réagir.
Ah oui, vous avez parlé de deux personnes que j'admire énormément. Welbeck, j'adore tous les livres de Welbeck, il me fait rire, il est insolent, il est drôle, il se fout du monde. Et puis Deleuze aussi.
Ah, c'est la liberté le point commun, peut-être,
ah oui,
ici.
Ah oui, Deleuze, c'est un philosophe extraordinaire.
Parce que l'actualité, c'est aussi vous. Vous, comme femme libre, plus libre que jamais, Françoise Fabian, ce premier album, c'est comme un pas de côté dans une carrière quand même d'actrice monumentale. Plus de 70 films de cinéma, sans compter la télévision, je ne parle pas du théâtre.
Oui, j'ai fait beaucoup plus de théâtre que de cinéma, vous savez.
Vous êtes la même, sur scène, sur les planches, sur un plateau.
Oui, je suis l'autre.
C'est-à-dire quoi?
Bah, l'autre, le personnage.
Et c'est bon?
Ah oui, c'est bon, oui. C'est bon, il faut inventer. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la recherche. Et au théâtre, c'est ça, c'est la recherche de l'auteur, la recherche d'un personnage. C'est la façon dont on peut manipuler et faire soi un personnage qui a été écrit pour quelqu'un d'autre ou pour n'importe qui. Mais cette recherche-là, c'est exactement comme quand on fait des études. On arrive à la fin des études, mais c'est tout le parcours de l'étude qui est intéressant.
Comment ne pas penser, là, maintenant, à ce rôle dont vous avez dit, Françoise Fabian, qu'il était vous, une certaine mode, chez Éric Rohmer, en 1969.
Très franchement, j'ai l'habitude de la neige, j'ai l'habitude de la montagne, vous savez, je ne risque absolument rien.
Cette neige fondue est très mauvaise, vous savez.
Bon, je vous laisse dormir, je m'en vais.
Restez un instant. S'il vous plaît.
Vous y tenez vraiment?
Bon, eh ben, partez, rentrez chez vous, partez. Au revoir.
Au revoir, je suis confus. On m'avait dit... Non, excusez-moi, ne vous vexez pas, on m'avait dit que les gens ici aimaient à se faire prier.
Oui, c'est un peu vrai. Et pour l'instant, l'Auvergnat, c'est vous? Moi, quand je dis oui, c'est oui. Et quand c'est non, c'est non. Si je veux qu'on parte, je dis partez.
Vous avez dit partez? Je reste seulement un instant.
Ma nuit chez Maud, Françoise Fabian. C'est vrai que vous avez dit Maud, c'est moi, comme on pourrait dire Madame Bovary, c'est moi.
Personne n'a dit Madame Bovary, c'est moi, sauf Flaubert. oui, il a deviné chez moi Alors qu'il était venu me voir pour dans La puce à l'oreille, il était venu me voir dans le film de Mal, et dans le film de Buñuel, ça ressemblait absolument pas à Maud du tout. Et c'est ça les vrais créateurs, c'est-à-dire qu'ils devinent en vous des choses que vous ne montrez pas et qui sont là en filigrane.
Quel genre de femme, en l'occurrence?
Mais Maud, c'était quand même très 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 loin de la pute que je faisais dans le Buñuel, et puis dans la modiste que je faisais dans le Louis Malle, et puis surtout dans La puce à l'oreille, c'était comique. Et donc, il m'a dit j'ai vu que vous étiez Maud. D'ailleurs, il est venu me présenter un an avant le scénario. Il est venu très timidement, une espèce de grand lévrier timide, comme ça, qui est venu dans ma loge, qui m'a apporté le scénario, qui m'a dit, écoutez, je fais ce film l'année prochaine. Si vous ne le faites pas, je le fais pas. Je l'écris pour vous.
Et en quoi est-ce que ce personnage, Françoise Fabian, avait quelque chose de profondément moderne pour l'époque? Ce qui explique peut-être pourquoi il a tant marqué les esprits, d'ailleurs.
C'était un challenge, parce que c'était quand même un film en noir et blanc, alors qu'on ne faisait que des films en couleur. C'était un film sur le Paris de Pascal, c'était quand même assez culotté. Et je trouvais ça tellement bien écrit, tellement intelligent. J'ai trouvé que c'était tellement proche de moi, cette solitude, ce combat, cette liberté.
Façon d'assumer ses désirs.
Oui. Et cette force vitale, quand même, malgré toutes les épreuves. La fantaisie, la féminité, enfin je trouvais ça merveilleux. Alors que ce film sur le Paris de Pascal ait fait le monde entier, ça c'est un mystère. Vraiment, pour moi, c'est un mystère.
Vous avez dit tout à l'heure...
Un film en noir et blanc sur le Paris de Pascal, vraiment c'est assez extraordinaire, non?
C'est pas mal. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne vous embêtait pas, qu'on ne vous a jamais embêté.
Non,
qu'on vous a jamais...
sauf quand j'étais adolescente, mais je me suis toujours défendue. J'étais la fille au compas.
La fille au compas?
Oui, j'étais la fille au compas.
Attendez, vous me faites très peur, la Françoise.
Ben oui, c'est parce que comme quand je faisais mes études, il fallait que je prenne un autobus, il fallait que je prenne un tram, etc. Et c'était bondé dans surtout quand on revenait le soir à la maison. Et évidemment, dans les autobus, il y avait des frôlements, des choses comme ça. Et ma mère m'avait dit, écoute, si tu te sens frôlée et si tu te sens, tu prends ton compas dans ta poche et bam, tu donnes un grand coup de compas.
C'est la meilleure leçon, devenir la femme au compas face au frotteur du métro.
Oui, c'est ça.
Comment vous avez vécu, de quel œil est-ce que vous avez suivi l'affaire Weinstein et le séisme qu'il a provoqué dans le milieu du cinéma? Et pas seulement, d'ailleurs, Françoise Fabian.
Ça, c'est vraiment... Je suis tout à fait contre, évidemment. Une horreur, les gens qui profitent de leur pouvoir. Bon, mais là, c'était le cinéma, elle voulait faire du cinéma, etc. Non, ce que je trouve épouvantable, ce sont les ouvrières dans un endroit ou dans un bureau, comme ça, qui sont persécutées par leur patron et qui peuvent les renvoyer. Ça, je trouve ça plus dégueulasse, vraiment. Mais... Qu'un producteur puissant dise à une actrice fais-moi une petite gâterie, ça tu fais pas le film.
C'est un abus de pouvoir.
Oui, le pouvoir, si tout le monde lui disait non, il continuerait pas.
Ouais.
Voilà, il suffit de pas vouloir aussi.
Il y a des situations que vous avez dû tolérer, vous, par le passé, dont vous savez qu'elles sont plus tolérables aujourd'hui, dont vous vous réjouissez qu'elles sont plus tolérables aujourd'hui.
J'ai toujours pensé que ça n'était plus tolérable. Vous savez, j'ai quand même lutté au moment des grandes manifestations.
Oui,
avec,
je rappelle, vous étiez
Simone
signataire
Veil et tout ça. Oui,
du manifeste des 343
oui,
salopes
sûr,
en 71.
Oui, oui, oui. J'ai fait un discours à l'UNESCO aussi avec Simone Veil. Non, j'y tenais beaucoup. Écoutez, moi j'avais une mère tellement intelligente et qui n'avait aucune culture parce que mon grand-père a eu 11 enfants. Et il a fait faire des études à tous ses garçons et pas du tout à ses filles. Alors c'était le piano, la couture, le machin, la cuisine, etc. Et je trouvais ça tellement injuste. Et ma mère a toujours été malheureuse de ne pas avoir de culture, de ne pas avoir passé des examens, etc. Et elle me disait, travaillez avec ma sœur, travaillez, ne soyez jamais dépendante de quelqu'un, ne soyez jamais dépendante d'un homme ni d'un mari. Faites votre vie et vous devez apprendre et vous devez travailler.
Même en amour.
Même en amour, bien sûr.
Alors on va chanter l'amour tous les deux. Vous êtes d'accord? Maintenant.
Ma foi.
Allez, un extrait de votre premier album, un morceau qui s'appelle « Passage ». Vous êtes sur France Inter avec Françoise Fabian. On est vendredi, on rit. Vous écoutez Boomerang?
Oui, c'est vrai. La 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 la
la mouche, je vole. Maman ne me l'avait pas dit. J'ouvre mes ailes, je décolle. Je les referme et j'atterris. Ah ah, dit la carpe, je bâille. Que c'est ennuyeux, un étang. L'eau qui glisse sur mes écailles n'est jamais la même, et pourtant. Ah ah, dit la rose, je pique. Et je suis douce en même temps. C'est ça qu'on appelle érotique. Tu veux me cueillir, sois prudent. Mais personne n'y prend plaisir. Ma voix devient intéressante quand il est l'heure de mourir. Ah ah, dit un ange, je passe. Je ne veux pas vous déranger. Le ciel est haut, la terre est basse. Je me suis un peu égarée. Ah ah, dit la terre, je tourne. Les hommes ne l'avaient pas cru. Et tout ce qui sur moi séjourne, un de ces jours n'y sera plus. La terre, je tourne. Les hommes ne l'avaient pas cru. Et tout ce qui sur moi séjourne, un de ces jours n'y sera plus.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Alors vous connaissez évidemment la chanson interprétée par une autre Fabian il y a quelques décennies de cela, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. La star de cinéma, c'est elle, cette fois, chevelure brune et grande mèche blanche, qui est une figure de style, cette mèche blanche, une anacolute, visage de Madone, regard vert émeraude, l'autorité, l'élégance, elle est chic et sport, pantalon rayé noir et blanc, chemisier blanc, tennis blanche. Françoise Fabian, invitée de Boomerang ce matin pour son premier album, on ne le répétera pas assez, un album réalisé par Alex Baupin, que les auditeurs de France Inter connaissent bien et qui viennent pousser la porte du studio, figurez-vous, tout en sport également, avec son jean et sa petite chemise. Bonjour Alex.
Bonjour.
Françoise, est-ce que vous pourriez au moins être émue là maintenant de voir votre réalisateur débarquer comme ça dans le studio? C'est la moindre des choses. Qu'est-ce que votre rencontre avec Alex Baupin a changé?
Ça a changé tellement de choses que je peux plus m'en passer.
Vous en parlez comme d'un sac à main. Là. Oui, mais...
Parce que quand je ne le vois pas, il me manque.
Ah,
vraiment,
bon,
je vous assure.
C'est l'histoire d'amour.
Oui.
Ah oui, mais moi je peux dire
moi,
oui,
c'est,
bien
c'est
sûr.
C'est une histoire d'amour. Enfin, je dis toujours, c'est le fils que j'aurais aimé avoir. Parce que il est tellement charmant, tellement drôle, tellement poli, tellement bien élevé, il a tellement de talent, je trouve toutes les qualités. Il est très séduisant, Alex. Il est irremplaçable.
Ça représentait quoi, Alex Baupin, de faire chanter Françoise Fabian, vous qui aimez faire chanter ceux qu'on connaît comme acteurs?
Oh ben, moi, quand je l'ai rencontrée, c'était pour un projet qui s'appelait Les gens dans l'enveloppe, où elle chantait deux chansons, qui était un livre-disque. Et très vite, j'ai vu que c'était une vraie musicienne, une vraie chanteuse. Et vous avez vu comme elle parle, comme elle est irrésistible, Françoise. Et c'est elle qui m'a dit très vite, je veux faire un album. J'ai attendu quand même 3-6 mois pour vérifier que c'était pas un caprice d'actrice. Très vite compris que non et qu'elle allait pas me lâcher.
Ah, tu m'as jamais dit ça.
Et elle a eu raison, puisque très vite je me suis rendu compte que voilà, que c'était une vraie chanteuse. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir fait chanter une actrice. Moi, j'ai l'impression d'avoir un petit peu révélé une chanteuse en quelque sorte.
Et qu'est-ce que vous imaginiez l'entendre chanter tout de suite?
Alors ça, c'est très difficile comme question. Moi, j'ai réuni des gens, j'ai écrit quelques chansons. Moi, j'ai réuni des gens dont vous avez parlé pour écrire des chansons. Je pense qu'il y a chez Françoise un mélange paradoxal de légèreté, de densité, qui correspond peut-être à ce qu'on appelle en France la pop, en fait. C'est-à-dire que la pop, c'est chanter légèrement des choses graves. Et Françoise, elle le fait formidablement, moi, je trouve, en tout cas.
Chanter légèrement des choses graves, Françoise Fabian, ça vous
va ? Oui, c'est une très bonne définition, vraiment.
Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une chanson vous plaise, d'ailleurs ?
Il faut que ce soit un scénario musical. Oui, c'est une histoire musicale. C'est comme si on racontait une histoire en musique. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la chanson française et que je trouve un petit peu dommage que beaucoup de chanteurs français chantent en anglais, comme s'il n'y avait pas de langue, alors que la chanson française est extraordinaire.
Ah là, vous rejoignez.
Oui, il y a eu des chanteurs merveilleux. Il y a encore des chanteurs merveilleux. Il y en a dont on ne parle plus, par exemple comme Reggiani ou comme là, il y a des chanteurs qui sont ignorés malheureusement parce que ils ont des voix magnifiques et ils ont chanté des chansons magnifiques.
C'est intéressant quand même, Alex Baupin, d'entendre cette défense de la chanson française.
Ah oui, mais François, c'est quelque chose de très important pour elle, la chanson française, effectivement. Et ça, j'ai senti aussi, elle a une grande culture de ça. C'est intéressant de travailler avec quelqu'un qui a cette culture-là, parce qu'on ne lui vend pas n'importe quoi à Françoise non plus.
La rencontre, elle a eu lieu aussi autour du piano, je suppose, puisque Françoise Fabian nous disait qu'elle était pianiste.
Oui, alors elle disait, hélas, que moi je ne l'ai jamais entendu jouer, puisque comme elle s'est cassée le poignet, elle ne peut plus le faire, hélas. Mais moi, très vite, j'ai amené un petit clavier chez Françoise et on se voyait toutes les semaines ou toutes les deux semaines pour chanter, défricher les chansons qu'on nous envoyait ou que j'écrivais, et il y avait quelque chose de très agréable à faire ces séances de travail. Puis on n'était que tous les deux, il n'y avait pas tout ce bazar autour à l'époque, c'était bien.
Comment ça se passait? Vous faisiez quoi exactement autour du piano comme
On m'amenait des chansons que je lui jouais, que je lui faisais écouter, et puis je les lui faisais répéter. Enfin, on a beaucoup chanté avant de rentrer en studio pour l'album. Elle se les appropriait, oui.
Oui, je me les appropriais, oui. Et quelquefois, je lui ai donné quelques idées d'accompagnement, comme ça, il a toujours adhéré à ce que je lui avais demandé.
Par exemple
La chanson de Jean-Claude Carrière, qui s'appelle
La Bossa,
Passage,
qu'on vient d'entendre.
Je voulais une bossa nova.
Pas une bossa au départ, celle qui m'a dit qu'il faudrait l'arranger comme une bossa nova.
C'est pour pouvoir danser, Françoise.
Non, parce que ça me fait penser à une bossa nova, et d'ailleurs, il a tout de suite adhéré.
Bien sûr, évidemment.
Et puis, la chanson d'Aznavour, je voulais que ce soit un peu sexy, comme ça, avec du bandoléon, un peu tango.
Ah, carrément.
Oui.
Ça avait l'air assez chaud, quand même.
Ah, mais bien sûr, on a passé des moments intimes qu'on vous dévoilera pas.
Non, mais c'est
vrai. Trop d'informations non plus, c'est-à-dire qu'on reste comme un peu dans l'understatement.
Il faut que ça soit sexy, les chansons.
Ah non, mais c'est ça, la chanson. C'est tout ça, ça doit exprimer tout ça, la chanson.
Et le piano, c'est sexy?
Ah, ça peut l'être, oui. Surtout le piano jazz.
Alex Baupin.
Ah ben moi c'est mon instrument, je vais pas vous dire que c'est pas sexy le piano. Moi j'adore ça plus que tout, évidemment.
Vous savez qu'il y en a un là dans
le studio. J'aurais voulu jouer du jazz.
Bah, il est pas trop tard, là on a Alex Baupin à côté de nous, il y a un piano qui nous attend, on est dans un très beau studio, le 621.
Oui.
Alex Baupin rejoint le piano, il va s'installer. Alors il est très tôt ce matin, mais on va quand même chanter, Françoise Fabian, non?
Ah ben j'espère que je suis en voix, je suis pas sûre à cette heure-ci.
Qu'est-ce qu'on chante?
On va chanter une chanson de Mouloudji, lui aussi, mais il est un peu méconnu. On le chante moins, mais c'est une voix magnifique.
Pourquoi lui?
Mais parce que c'est une chanson qui est comme un rêve. C'est un rêve, cette chanson. Et d'ailleurs, j'ai toujours commencé à chanter cette chanson en pleurant. Alors j'espère que je ne vais pas pleurer, parce que je me suis entraînée un petit peu avant. Mais je rentre dans un rêve.
Vous voulez que je vous fasse une confidence?
Elle n'est pas réaliste du tout, cette chanson.
Vous avez le droit de pleurer dans cette émission. Je vous laisse rejoindre le piano aux côtés d'Alex Baupin. Françoise Fabian.
Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard, nous nous regarderons. Et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera de l'orgue de barbarie. Pour nous, cette terre sera le plus beau, le plus joli. c'était.
Mais ça a été complètement. Merci infiniment à tous les deux d'être venus faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que votre premier album, Françoise, sort dans un mois. Quelque chose me dit que ce sera pas le dernier. On vous verra sur scène au festival Fnac Live à Paris début juillet. On attend aussi avec impatience la rétrospective qui vous sera consacrée à la Cinémathèque du 2 au 9 juillet.
C'est prestigieux, ça, ah bah... c'est formidable.
On n'est pas un prestige près. Merci à tous les deux et merci aussi au cœur de Boomerang cette semaine. Lola Costantini, la soprane du son. Valentine Chedebois, la contralto de la programmation, Léonard Billot, le ténor de la culture, Pierre Martinerie, le baryton de la blague, Maud Ventura, la coloratour de l'affiche et Jean-Baptiste Audibert, la base de la chanson. Tout de suite, on va entendre Dorothée Barba, que je voudrais féliciter aussi et que je remercie pour cette semaine d'Instant M avant le retour de Dame Sonia qui était en vacances sans doute à Papette.
Paraît-il, à Papette, ouais, j'imagine, dans les Caraïbes forcément. Bon. Merci à vous, Augustin.
C'est moi.
Et merci pour Françoise Fabian. Très belle journée.
C'était très beau. Je vous embrasse.
Au revoir.